Moi, c'est André de Mboujima et au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Deux mois après le début des pourparlers de Kampala entre le gouvernement de la RDC et le M23, un compromis a enfin été trouvé sur le premier point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. Il s'agit donc là, selon certains observateurs, d'un pas franchi dans ces négociations malgré quelques divergences autour de l'interprétation de ce même document. Parole aux auditeurs, on fait le débat aujourd'hui avec comme question principale, que pensez-vous de ce premier pas et quelles seraient les chances de réussite de ces assises? Mesdames et messieurs, vous pouvez déjà réagir en direct en composant le 081-890-6315 et vous avez également la possibilité de nous rejoindre à notre courriel pa@radiokapi.net. Merci à Titi, Pierrot et aussi à Mimi Kindou qui réalise ce programme présenté et coordonné par J.R. Lugembo sous la supervision de Nicole Daka. Bienvenue à tous.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, Emploi, Environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, Point de vue et Portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Voilà, nous disons également merci à vous tous qui nous avez écrit. Franck, vous êtes à Vienne, Samy à Jakuanga, Samy Matofali de Boutembo, Clédie Smith Mukengeshai, Gelor Malela, Mouindolu Kambéré de Béni, Joseph Miché Bassizézé et Bruno Kibwege Matondo. Nous allons lire vos correspondances dans quelques instants. Le temps pour nous d'accorder d'abord la parole à notre invité qui est déjà en ligne, Dominique Wirth. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes
bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, vous êtes notre invité, Dominique. Le 6 février, les deux partis, à savoir le gouvernement congolais et le M23, ont adopté un texte sur l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. C'est un petit pas franchi et il y a de quoi quand même à redonner espoir.
Ben écoutez, oui, moi je pense en effet que l'accord qui est intervenu la semaine passée sur l'évaluation de l'exécution des engagements des uns et des autres des accords de 2009 est en effet une bonne un premier pas certainement encourageant en ce début d'année. Maintenant, moi je vois aussi au-delà de cet accord-là qu'il y a quand même, et c'est aussi je pense un point positif ou en tout cas un peu encourageant, je vois qu'il y a quand même aussi une agitation un peu dans tous les sens. Alors il faudrait qu'on puisse analyser dans les jours qui viennent et voir un peu si toutes ces initiatives et toutes ces déclarations qui ont été qui sont sorties de la bouche des responsables, que ce soit congolais, que ce soit du M23, que ce soit de la communauté internationale, du secrétaire général de l'ONU, ben toute cette agitation qui fait qu'on semble être rentré dans une nouvelle phase par rapport aux négociations de Kampala, montre en effet qu'il y a sans doute une volonté maintenant depuis le 9 décembre que ce sommet a été lancé à Kampala, mais je pense qu'il y a maintenant une volonté en tout cas d'avancer, et j'ai même entendu certains qui disaient que ce serait bien d'avoir un accord d'ici la fin du mois de février, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours maintenant, puisque on sait que le mois de février est le mois le plus court de l'année.
Oui, vous avez parlé des agitations des uns et des autres. Nous prenons juste les propos d'un des protagonistes. Pour la délégation du M23, ces rapports valident la légitimité de ces revendications. Alors, que peut signifier ce propos de monsieur Bertrand Bissimois, le porte-parole du M23?
Mais écoutez, moi je pense que, évidemment, ça fait partie du jeu politique et du jeu de la négociation. Maintenant, je pense qu'ils vont malheureusement être un peu déçus, me semble-t-il, parce que cet accord sur ce fameux point de l'évaluation des accords de 2009 qui avait été conclu à Goma ne démontre pas par ailleurs, et en tout cas j'ai encore entendu la délégation gouvernementale, en tout cas bien insister là-dessus, et même le facilitateur ougandais, le ministre des Affaires étrangères, cet accord ne conclut pas que tous les autres points de revendication que le M23 veut absolument mettre sur la table vont être, d'une part, acceptés par la partie du gouvernementale congolaise, et d'autre part, vont être traités. Et donc, moi, je pense que du côté du gouvernement congolais, le fait qu'il y ait eu cette évaluation qui est finalement pas tellement mauvaise, hein, et donc on pourrait imaginer quand même, quand on voit qu'il y a 15 dispositions sur les 35 ou 36 qui avaient été énoncées à Goma en 2009, que 15 ont été remplies, que 8 le sont partiellement, et qu'il y en a 12 qui n'ont pas été traitées. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, cet accord sur cette évaluation et sur le fait que maintenant il y a vraiment un consensus des deux parties sur l'évolution des engagements des accords de 2009, moi je ne pense pas que ça ouvre la porte à ce que les autres revendications moins légitimes de la part du M23, à savoir toutes celles liées au dialogue intercongolais, à savoir à la non-légitimité du président et des parlementaires élus en 2011, à savoir la réintégration de l'UDPS dans le discours et dans le dialogue intercongolais. Je ne crois pas que toutes ces revendications là vont être traitées maintenant dans la suite des négociations de Kampala.
Alors, si nous restons toujours dans les propos des uns et des autres, il y a quand même cette expression qui fait peur, des forces négatives, à croire le propos de porte-parole des M23, qui dit ceci, je cite, « Nous pensons que cet accord va bannir l'expression des forces négatives dans les vocabulaires de Kinshasa pour nous qualifier. » Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, ce langage pourrait changer, d'autant plus que, disons, même au niveau de la communauté internationale, des experts des Nations Unies qui ont travaillé là-dessus, je crois que la plupart ont utilisé ces termes de forces négatives.
Ben oui, moi je pense que malheureusement, pour le M23, le M23 reste une force négative. C'est en tout cas, comme vous le dites très très bien, encore une qualification qui a été retenue par les experts de l'Organisation des Nations Unies. Et donc maintenant, vouloir faire offre de service auprès des forces armées congolaises et du gouvernement congolais pour participer conjointement M23 et forces armées de la République démocratique du Congo dans la chasse aux forces négatives qui sévissent dans les territoires à l'est de la République démocratique du Congo, mais ça je pense que c'est quand même aller un peu vite en besogne, parce que la réponse a été assez rapide d'ailleurs de la part du gouvernement congolais, puisque le gouvernement congolais et la délégation congolaise a bien rappelé que l'issue de ces négociations à Kampala devait évidemment passer par le fait que le M23 déposait les armes, et que certains qui sont d'ailleurs recherchés et poursuivis par la Cour pénale internationale, ben, vont devoir répondre de leurs actes devant des juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales.
081-890-63-15 ou encore le 081-890-43-39 pour participer en direct.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba,
Kikongo et Lingala, synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sports toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Nous avons les deux premiers auditeurs qui sont en ligne, Freddy est à Kindu et Franklin à Bukavu. Bonjour Freddy.
Bonjour Pierre.
Voilà Freddy, vous avez suivi notre invité tout à l'heure et vous connaissez bien le sujet du jour. Nous parlons de ce premier pas franchi au niveau de Kampala, la négociation entre le gouvernement congolais et le M23. Que pensez-vous de ce premier pas et quelles seraient pour vous, selon vous, donc les chances de réussite de ces assises?
Ok, je dis d'abord merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir co-débattre dans cette émission. Et je dis aussi bonjour à tous les types de paroles aujourd'hui de la radio Capi. Une étape dans le cadre des pourparlers entre le M23 et le gouvernement congolais à Kampala vient d'être franchie. Bon, c'est une bonne chose, et l'invité même l'a souligné tout à l'heure là. Mais la question que l'on se pose, c'est celle de savoir, c'est après combien de temps. Et il en reste encore à le dire, combien d'étapes à franchir. Et si ma mémoire ne me trahit pas, je pense que d'ici peu de jours, les rideaux vont devoir tomber à Kampala, sauf changement à la dernière minute. C'est dans cette optique que j'ai, que nous pensons que cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan, au regard du temps que cela a pris, et par rapport aux nombreuses tâches qui restent encore à faire et aux attentes des Congolais hier. Et c'est ce qui nous pousse d'ailleurs à émettre un avis très sceptique à ce qu'il y ait un aboutissement favorable de ces assises de Kampala qui semble être au stade actuel, à mon avis, dans les dilatoires. Et c'est ce qui témoigne aussi clairement la position de l'Ouganda qui semble agir comme un pyromane et en même temps comme un sans-pompier. D'où, tant que c'est pour parler, se tiendra à Kampala, il n'y aura pas d'avancée à mon avis. Alors, ce qui peut être fait pour le moment, c'est la délocalisation du cadre d'échange, soit dans un état non membre de la CIRGEL, soit dans l'état qui situera maintenant la présidence de cette organisation régionale, à l'occurrence du Congo-Brazzaville.
Oui, mais Freddy, oui, mais à ce moment, on est passé à une autre vitesse. Je crois qu'on ne peut plus revenir sur cette question des délocalisations de cadre ou de lieu où se tiennent les négociations. En ce moment, c'est vrai, il y a déjà un pas franchi. Comment le capitaliser? Comment faire en sorte qu'il y ait vraiment un aboutissement heureux? C'est ça la plus grande question.
Bon, moi je pense que je vous ai dit tout à l'heure ici. Une étape vient d'être franchie, c'est une bonne chose, mais c'est après combien de temps que nous venons d'observer cela. Alors, pour moi, je pense que c'est le moment pour moi maintenant d'interpeller peut-être notre gouvernement à mettre déjà en place des mesures, des stratégies éloquentes pouvant lui permettre de restaurer son autorité sur toutes les tendues du territoire national de façon à sauver les milliers de vies de ces paisibles citoyens qui croupillent innocemment et de façon perpétuelle dans la misère. Au lieu de toujours de continuer à s'accrocher à des débats qui le verseraient davantage dans la distraction. Et comme vous le savez bien, hier, même le chef de l'État ne cesse de le dire, la solution à la crise à l'est du pays peut être soit diplomatique, politique ou militaire. Alors que, comme l'option diplomatique qui semble rester à la traîne, comme nous avons l'impression, c'est le moment de saisir l'opportunité pour faire maintenant le choix. Et n'empêche que nous appliquions aussi le système de talking and fight. Parce qu'on a suivi hier que le M23 serait en train de renforcer sa position. Alors que les négociations se poursuivent à Kampala, vous l'avez aussi suivi. Et parce qu'ils ont compris que le gouvernement n'a pas lâché la prise comme ils auraient dû penser. Alors que cette confusion qui a été créée à l'égard des M23, vous devez la maintenir.
Voilà, merci.
Selon moi, jusqu'au bout.
Voilà, merci vraiment.
Et là, je salue d'ailleurs en passant la sagacité qu'affichent les membres de la délégation de notre gouvernement à Kampala.
Merci beaucoup, Freddy. Nous retenons une chose par rapport à votre inquiétude, le fait que les M23 seraient en train de renforcer ses positions, vous doutez qu'il y ait une issue favorable par rapport à ces négociations. Donc, merci à Freddy, et vous avez évoqué beaucoup de choses. Franklin, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Bonjour à notre invité.
Voilà, Franklin.
Marine de Bukavu, tout
voilà, merci Franklin de nous rejoindre. Vous avez suivi Freddy tout à l'heure. Freddy s'inquiète du fait que les M23 se repositionnent. C'est là prouve à suffisance ou justifie que disons les négociations ne pourraient pas donner les résultats escomptés. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous avez peut-être un avis contraire?
Non, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Freddy avec son inquiétude. Mais moi, je pense que la question des négociations de Kampala, à mon avis, est déjà close. Pourquoi je dis cela? C'est seulement parce que nous nous dirigeons tout droit vers la violation de la Constitution. Parce que quand on dit que l'on accepte qu'il y a des points qui n'ont pas été exécutés, cela, à mon avis, revient à dire que le gouvernement s'apprête à exécuter ce qui n'a pas été exécuté. Et ça sera la violation de la Constitution. Parce que ça risque de nous amener tout juste vers le partage de pouvoir entre le gouvernement et le M23. Et cela aura comme conséquence le mépris de l'ordre constitutionnel qui dit que le pouvoir ne doit être acquis que par la voie des urnes. Monsieur JR, moi je pense que le gouvernement doit cesser de distraire le peuple. Je sais que le gouvernement et les M23 savent réellement ce qu'ils sont en train de faire. On est en train de préparer les lits pour la révision de la Constitution. On veut réviser la Constitution parce qu'on sait que non, le mandat est vraiment court, le mandat veut toucher à sa fin, parce qu'on est vraiment, on a déjà avancé, on a déjà consommé une année. On veut maintenant réviser la Constitution pour donner la chance à certaines personnes de se représenter encore, alors que la Constitution, à l'heure actuelle, a déjà révisé ça. Et donc, on veut trouver des justifications pour réviser la Constitution. Moi, ce que je veux faire, seulement la proposition que j'ai à faire, je vais proposer ma proposition à la société civile. Notre société civile doit être mûre. Nous allons vivre au Sénégal. Si la constitution sénégalaise a été bloquée de révision, c'est parce que la société civile s'est constituée en un obstacle. C'est là que j'interpelle toutes les organisations de la société civile de se mettre d'accord et de faire échec à toute tentative de violation ou de révision de la constitution.
Merci beaucoup,
Franck. Je voulais poser une question à notre invité.
Oui, allez-y rapidement.
On a suivi la semaine prochaine le secrétaire général du PPRD, monsieur l'honorable Évariste Bouchard, lancer un dialogue avec un pour parler avec les forces vives des partis politiques. Alors, je me pose la question, quel sera le rôle des négociations qui s'en parlent et celles qui vont s'ouvrir entre les gouvernements
le dialogue et national.
Les forces vives au niveau du pays? Comment se faire lorsqu'il y aura des résolutions au niveau
Kampala,
on sait qu'on remet en cause la légitimité. Et si aujourd'hui, au niveau de l'opposition à l'interne, on remet en cause la question de légitimité, comment ça va se faire au niveau de Kampala et au niveau de notre pays où les pourparlers vont aussi se tenir? Merci beaucoup,
Franklin. Vous, au fait, votre inquiétude tourne autour de cette révision de la Constitution. Vous dites que le temps passe, c'est vrai, et selon vous, c'est une manœuvre dilatoire pour qu'on arrive à la révision de la Constitution, et vous en appelez à la société civile, à la vigilance. Merci. Galvani, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour, c'est le
directeur. Vous avez la parole, Galvani.
Donc, je demanderai un peu si vous pouvez répondre à la question parce que je viens de vous prendre en cours.
Voilà, c'est vrai, nous parlons aujourd'hui de ce pas qui a été franchi au niveau des Kampala entre les gouvernements congolais, donc au cours de ces négociations. Et que pensez-vous de ces premiers pas et quelles seraient, selon vous, les chances de réussir de ces assises?
Bon, d'accord. D'abord, c'est un pas à saluer malgré qu'ils ont eu du mal à s'entendre. Mais néanmoins, jusque-là, rien n'est à voir. Parce que les grands problèmes d'abord, il faut que les M23 veuillent parler quoi, avec le gouvernement qu'on se passe sur la situation politique et sécuritaire. Ce n'est pas quand même au M23 de demander au gouvernement de faire de telles histoires. Le gouvernement est quand même responsable et censé aussi de faire ces histoires et ce n'est pas au M23 de faire ça. Et même s'il faut le faire, ce n'est pas... On n'est pas obligé d'aller à Kampala pour faire de telles histoires.
Voilà,
le gouvernement est responsable. Oui. Il doit aussi comprendre. Et tout ça, c'est... Et le gouvernement est arrivé à de telles situations. C'est ça, c'est tout à
fait. Oui, Galvani. Oui, Galvani, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Galvani. Voilà, parce que je comprends que vous venez à peine de nous rejoindre. Vous venez, disons, vous nous avez pris au cours de l'émission. C'est vrai, on se comprend pas par rapport au sujet Galvani. Peut-être le temps que tu puisses continuer à suivre les autres intervenants, vous pouvez peut-être vous fixer par rapport au sujet. Guillaume, vous êtes à Magui. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Bonjour à Sylvain de Bounet également.
Voilà, Guillaume, vous avez la parole.
Oui, merci Pierrot. Pierrot, vous savez ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, c'est plutôt JR, Guillaume.
Hein?
Guillaume,
vraiment,
c'est
ça est... Oui, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Vous savez, Pierrot, tous les ministres qui existent aujourd'hui, c'est depuis les fameux accords de Saint-Cyr là. Mais encore aujourd'hui, on vient d'ajouter encore là. Un accord là très fort qui n'intéresse même pas les Congolais. Mais, mon cher Pierre, je vais vous dire clairement aujourd'hui, le MV3 a goûté le miel de la RDC. Donc le MV3 a cherché par où passer. Donc le MV3 a damé le pied à Kampala. Mon cher Pierre, la solution est congolaise. On se manque de qui? La situation à l'Est nous a déjà donné beaucoup d'expérience. Nous ne vivons pas à Kinshasa, moi je ne vis pas à
Kinshasa. Voilà, Guillaume.
Nous vivons à l'Est.
Oui, Guillaume.
Nous vivons à l'Est, comment les gens se... Comment oui. Les gens deviennent des généraux, c'est
pas voilà,
des
Guillaume.
Comme ça, mais...
Voilà,
mais
Guillaume.
De quelle solution va sortir d'un pays qui a quitté et qui est devenu le juge?
Voilà, Guillaume, est-ce qu'on peut vous poser une question de relance, Guillaume?
Guillaume, en tout cas, nous ne sommes pas intéressés.
Voilà, je crois qu'on on s'entend pas, mais seulement que Guillaume a également des inquiétudes, hein, comme Freddy, Franklin et Galvani, tous les autres qui ont précédé. En gros, donc, avant d'accorder la parole à notre invité, on retient que Freddy parlait plutôt de tout le monde pratiquement a salué cette étape franchie, hein, au niveau de ces négociations, mais on émet quand même quelques réserves parce que, comme Freddy l'a dit, au niveau de M23, le fait déjà de se repositionner ou de se positionner prouve à suffisance que les négociations ne peuvent pas évoluer. Franklin aimerait savoir la ligne de démarcation entre ce qui s'est fait à Kampala et le dialogue national qu'on appelle de tous vœux au niveau national. Alors, quel sera qu'est-ce qui constituera la différence entre les deux assises? Voilà. Et Galvani a pratiquement monté dans le même sens que les prédécesseurs. Vous aussi, vous avez quelques points de vue à émettre. Vous pouvez composer les 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Dominique Ouest, nous revenons à vous. Vous avez suivi les uns et les autres.
Oui.
Vous avez suivi pratiquement, donc notamment Freddy qui a parlé, qui craint, Franklin, pardon, qui craint d'ailleurs la révision de la Constitution. Il dit, c'est vrai que les négociations évoluent dans le sens de violer la Constitution. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lui réservez comme réponse. Et il a souhaité aussi avoir des précisions par rapport à ce qui s'est fait à Kampala et le dialogue qu'on appelle de tout vœu sur le plan national.
Écoutez, moi je serais un peu moins inquiet par rapport à une volonté de la part des autorités congolaises de vouloir maintenant changer la Constitution. Il faut quand même savoir que la Constitution de 2006, qui a été révisée quand même deux, trois fois jusqu'en 2010, possède des verrous vraiment importants qui font qu'il est vraiment très difficile de modifier la Constitution sans avoir de toute façon un agrément et une acceptation de cette modification par une partie de l'opposition présente au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat congolais. Donc moi je ne vois pas trop comment est-ce que dans cette dynamique de négociation à Kampala, je ne vois pas trop d'abord en quoi elle est inconstitutionnelle et comment pourrait-elle aboutir à une modification de la Constitution qui irait quoi en faveur du pouvoir en place et des autorités congolaises actuelles. Moi je n'y crois pas trop, je ne pense pas du tout que le personnel politique congolais aujourd'hui a dans la tête la volonté de vouloir changer la Constitution. Je vois par contre, pour reprendre la question toujours de son auditeur, je vois par contre qu'il y a la volonté des autorités congolaises, et on l'a vu avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, qui, au retour de Paris, vient d'annoncer, où il était présent d'ailleurs à une session de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, qui vient d'annoncer à son retour à Kinshasa, que le vœu qui avait été exprimé par le chef de l'État lors de ses vœux de fin d'année, de mettre en place un dialogue de cohésion nationale, eh bien que cette volonté-là, exprimée par le chef de l'État lors des vœux de fin d'année en décembre dernier, ben, va se mettre en place maintenant. Et en effet, on a entendu le secrétaire général, l'honorable monsieur Beauchamp, secrétaire général du PPRD, le parti majoritaire au Congo actuellement, en République démocratique du Congo, on a entendu le secrétaire général de ce parti-là, le parti le plus influent actuellement en RDC, annoncer qu'il avait déjà engagé des consultations politiques avec tous les responsables des partis politiques et qu'il a même dit qu'il n'y aurait aucune exclusive dans les différents groupes ou partis politiques ou représentants de la société civile qui vont être associés et qui vont être invités à ce dialogue de cohésion nationale. Donc, alors, la mise en place de ce dialogue, évidemment, est une stratégie politique, me semble-t-il, de la part du pouvoir en place à Kinshasa, pour justement contrer les autres revendications du M23 que eux voudraient bien mettre en place dans le cadre du sommet de Kampala, et que Kinshasa, finalement, rapatrie à l'intérieur du pays en disant « ça n'a rien à voir avec la CIRGN, avec la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, avec la communauté internationale, c'est un problème en effet purement congolais. Et donc on va lancer ce dialogue de cohésion nationale où on pourra aborder tous les points qui fâchent actuellement et notamment tous les points qui fâchent depuis les fameuses élections de 2011 où on sait qu'il y a eu quand même quelques malversations assez importantes dénoncées par la communauté internationale, dénoncées par les sociétés civiles en RDC et dénoncées par même certains acteurs politiques. Et oui. Donc moi je pense que ce dialogue de cohésion nationale peut complètement cohabiter en parallèle du sommet de Kampala, où on règle uniquement une question liée à l'est du Congo, à la présence de forces négatives qui aujourd'hui mettent à mal le développement de cette partie de la République démocratique du Congo, tout en ayant ce dialogue de cohésion nationale. Donc moi je ne vois pas du tout où il y aurait un conflit soit de compétences, soit un conflit de légitimité entre les deux dynamiques. Il y en a une qui est militaire et politique par rapport à l'Est, il y en a une autre qui concerne l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo.
Voilà, nous avons encore deux autres auditeurs qui sont en ligne, Moulumba qui est à Kananga et Pablo à Kikwit. Bonjour Moulumba.
Bonjour Pierrot.
Oui, c'est JR qui est en antenne. Oui. Alors, Moulumba, oui, vous avez la parole. Oui, allez-y.
Oui, oui, par rapport à ce sujet, je crois que j'ai suivi l'invité avec beaucoup d'intérêt. Il est en train de s'appeler sur le problème, soi-disant, que le changement de la Constitution ne pourra pas apporter de petites discussions lacunaires. Moi, je me dis, ici au Congo, vous savez, et surtout les gouvernements, ceux qui sont au pouvoir. Vous savez, quand on parle du changement de la Constitution, soit des lois constitutionnelles, là, on parlera de l'intérêt du gouvernement. Parce que quand on parle du changement, ça va de quel intérêt? Ça va de quel intérêt? Pour l'intérêt national ou sur l'intérêt de tout le monde ou
oui,
pour l'intérêt des gens qui sont au pouvoir?
Oui, Moulumba, s'il vous plaît Moulumba, oui. Parce que là nous sommes à Kampala, oui. Il y a un pas qui a été franchi, vous saluez comme vos prédécesseurs, j'imagine. Quelles seraient les chances, vous, hein, de réussite de ces assises dans les jours à venir?
Oui, bon, en fait, ça sera la chose que moi j'ai proposée. Peut-être que ça s'effectue dans de bonnes températures, dans des bonnes conditions. Alors, on peut espérer que ça ira bien et ça portera un plus pour la population congolaise. Je voudrais ici demander à tous les gens qui participeront, qui prendront partie à cette à ces assises, de prendre de bonnes consciences pour se siéger, se comprendre en bonne et due forme.
Voilà, il faut faire la part des choses.
Plus,
Voilà, Moulouba, oui. Vous anticipez un peu les choses, donc vous allez droit déjà vers le dialogue souhaité de tous les voeux par, disons, les Congolais actuellement, pour que ça soit tenu au niveau national. C'est vrai, ça viendra, les gens vont participer, vous demandez à ce qu'il y ait vraiment une volonté de pouvoir faire changer des choses. D'une part, il y a aussi des négociations, de l'autre part, pardon, il y a des négociations qui se tiennent au niveau des Kampala, nous venons de le dire, il y a un pas qui a été franchi, il reste encore d'autres choses à faire, et à ce niveau, que se situent les débats. Merci d'avoir appelé Moulumba. Nous prenons Pablo qui était à Kikwite. Bonjour.
Bonjour, JR.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs. Pablo, vous avez également la parole.
Oui, merci. Je salue les premiers pas de l'accord de Kampala sur les conflits de l'Est. Est-il que, enfin, la situation, les premiers pas marqués là, vous ne sentez pas qu'il y a un risque sur l'intégrité nationale, parce qu'entre-temps, les M23 continuent à occuper la partie et les minerais qui sont exploités là ne vont même pas servir aux Congolais. Ils vont, ces parrains qui supportent les M23, si le gouvernement peut tout faire, même si le premier pas est lancé, mais qu'ils s'engagent d'octroyer l'option militaire pour qu'ils puissent déloger d'abord les M23, même s'il faut continuer, que cela vienne se continuer à Kinshasa et ça n'arrange pas la situation générale du pays, parce que entre temps maintenant, le pays est divisé, l'administration de l'Est n'est pas sous contrôle de l'État et c'est l'intégrité territoriale. La constitution là-dessus est claire en matière de l'intégrité, on ne négocie pas, même si le premier pas est lancé. On cherche d'abord à récupérer toute l'intégrité nationale. En attendant, on vient organiser les dialogues ou pas. Entre-temps, le pays est en train de souffrir. Où vont les minerais que le M23 est en train de contrôler? Ça, c'est au détriment de la population. Voilà, c'était ça ma contribution.
Merci beaucoup, Pablo. Arsène, vous êtes à Kikwite, bonjour, dans la même ville voilà, que Pablo. Vous êtes avec nous, Arsène?
Oui, je suis avec vous.
Oui,
merci
allez-y.
Beaucoup pour la parole. Moi, je crois, à mon avis, bon, un pas a été franchi. À quoi ça va servir, ce pas-là? À quoi ça va servir? Parce que dès le début, déjà, c'est un leurre. Ça, c'est une histoire qui ne concerne qu'un groupe de personnages qui veulent massacrer les Congolais par des prétextes. Nous avons des problèmes internes ici chez nous. Les problèmes que nous avons ici au Congo, c'est un problème de compréhension des textes. C'est un problème de l'applicabilité des textes qui régit notre nation. Parce que, aujourd'hui, un groupe de gens se constitue à une certaine force, que ce soit militaire, que ce soit politique, pour essayer un peu de distraire les Congolais en train de les massacrer, en train de voler tout ce qu'ils peuvent voler. Et on s'est fait des histoires. Ils vont faire une réunion. Dès le début, moi, Arsène, par exemple, dès le début de cette histoire de Kampala, j'ai dit ça ne donnera rien. Ils vont faire des compromis. Avec qui?
Arsène, vous avez dit que ça ne donnera rien. Mais maintenant que ça a donné, ne fût-ce que quelque chose, et un premier pas, ils se sont mis d'accord sur l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. Je crois que c'est déjà un pas. C'est que ça a donné quand même quelque chose.
Ok, merci. Mais un pas pour l'intérêt de qui? C'est pour leur intérêt. C'est un accord qui concerne qui? Le gouvernement. Quel gouvernement? Est-ce que vous connaissez encore l'histoire? Les Congolais ne sont pas dupes, hein, monsieur JR. Les Congolais ne sont pas dupes. Cette histoire-là a été négociée par un groupe de personnages.
Oui, c'était le FNDP à l'époque.
Ça ne concerne pas les Congolais. Parce qu'un Congolais qui aime ce pays ne prendrait jamais les armes. Un Congolais qui aime ce pays.
Mais est-ce que Arsène,
cette histoire-là tue les Congolais?
Est-ce que, Arsène, à votre niveau, vous avez déjà eu à parcourir ou à scruter cet accord de paix entre le gouvernement et les congrès nationaux pour la défense du peuple FNDP? Donc, je parle de l'accord du 23 mars 2009. Avez-vous déjà eu le temps de le lire?
Bon, le lire ou ne pas le lire?
Non, en tant que Congolais, parce que je crois que les assises, quand ça se tient, vous avez des assises qui se tiennent dans notre pays et qu'il y a des recommandations, nous avons intérêt quand même à avoir des précisions ou des informations par rapport à ça. Comme ça, ça peut nous permettre quand même de faire un débat très objectif.
Ok, moi j'ai des petites précisions là-dessus.
Oui, allez-y.
J'ai des petites précisions. Et le gros du problème, s'il faut le voir, le gros du problème, c'est l'intégrité territoriale d'abord, et ensuite l'exploitation même du territoire congolais. C'est ça d'abord la première chose. La seconde, c'est quoi? C'est l'orientation du peuple congolais vers le développement. Voilà. On n'a pas plus quelque chose à ajouter là-dessus. Laissez les Congolais en paix. Nous cherchons la paix. Vous faites des négociations, ok, faites ces négociations, mais quel est le résultat? Quel est le résultat que le Congolais est en train d'attendre? Le Congolais attend
la paix, une paix durable.
Et que nous puissions travailler et développer ce pays.
Merci beaucoup, Arsène. Clément, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Clément.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les intervenants.
Voilà, on vous accorde la parole avant de lire également quelques correspondances que nous avons sur notre table. Clément, vous êtes en Boujimaï, je l'ai dit tantôt. Bon, un coucou hein, à tous ceux qui nous suivent en Boujimaï. Vous avez la parole, Clément.
Voilà. Ma petite contribution, c'est comme celle-ci. Comment se fait-il que les M23 sont en négociation et qu'ils ont franchi la première étape et en franchissant la première étape, ils sont en train de renforcer encore leur base arrière. Et je me pose pas des questions du côté congolais. Est-ce que nous y allons seulement sur le plan diplomatique et politique sans pour autant aussi renforcer notre base arrière? Parce que le M23, en les vendant de très bien, c'est comme tu dirais, les gens qui préparent les négociations avec les armes, c'est-à-dire que les Congolais, eux aussi à leur tour, devaient s'attendre en sorte que si ça ne réussit pas, si ça n'aboutit pas, c'est-à-dire que pour prendre les armes, comme les M23 s'apprêtent déjà à prendre les armes. Voilà un peu ma petite contribution. Et je me pose un peu les questions d'avoir. Qui est M23 et qui est pouvoir central? Voilà un peu la grande question et la grande contribution que nous devons intégrer tous ensemble. Qui est M23? Qu'a-t-il dit au pouvoir central? Et quelle est la redevance du pouvoir central par rapport au M23? Et pourquoi, dans le pourparler, le M23 est en train de renforcer sa base arrière? C'est-à-dire que, quelque part, le M23 sait seulement que nous n'aboutirons nulle part et nous serons aux armes. Voilà un peu, les Congolais aussi doivent prendre la responsabilité de dire que nous sommes là et il faut aller aux armes, comme Kabila l'avait proposé, en disant que la politique, la diplomatie et les armes. Mais maintenant, où sont les armes? Où sont les armes plutôt?
Voilà, je crois que... Voilà, je crois qu'on est très engagé aussi dans la réforme de l'armée. Je crois qu'il y a déjà des étapes qui ont été franchies également de ce côté-là, Clément. S'il faudrait quand même qu'on réponde à votre inquiétude. On va d'abord prendre Blaise qui est à Lubumbashi. Blaise, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Blaise.
Et bonjour à ton invité.
Voilà, merci de nous rejoindre. Blaise, vous avez également la parole. Vous avez suivi vos prédécesseurs. Est-ce que vous partagez leur avis ou vous avez peut-être un avis contraire?
Allô, monsieur le journaliste.
Oui, allô, Blaise, vous avez la parole.
Ok. Moi, mon inquiétude, c'est quoi? Il y a plusieurs accords qui ont été signés dans ce pays. Mais ce qui met défaut, c'est l'application. Il paraîtrait qu'à Kampala, ils ont fait un petit pas de bon. Il paraîtrait, c'est bon. Nous savons le comportement de notre gouvernement. Il précipite à signer les accords qui vont provoquer des théories les jours à venir. Qui vont encore provoquer le déplacement des innocents. Alors, maintenant, il va encore signer. En regardant comme ça, lorsqu'on fait des analyses, nous arrivons, ça se langage que moi, nous allons conclure que M23 et le gouvernement, ils sont un. Et les désordres qui se passent à l'Est, notre gouvernement est au courant et ça lui facilite de justifier son échec de mandat et son échec de bilan. Donc, lorsque vous signez un accord, soyez responsable. Appliquez-les tels que vous les avez signés pour que ça ne prenne
voilà,
pas
Blaise, les oui, Blaise,
jours à venir.
Blaise, s'il vous plaît, on peut avoir... Juste une question de précision, hein, Blaise. Ouais. Est-ce que vous avez déjà lu l'accord de paix entre le gouvernement et les congrès nationaux pour la défense du peuple?
Bon, je n'ai pas encore lu ça.
Mais alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée, notamment sur, disons, le premier pas, disons, sur l'évaluation de l'accord du 23 mars 2003, voilà, qui vient d'être adopté?
Monsieur Joyce.
Oui, parce qu'à ce niveau, on pourrait faire quand même un débat. Oui, allez-y.
Lire ou pas, nous demandons à notre gouvernement qu'il soit sérieux de respecter ce qu'il signe.
Mais voilà, parce que vous n'avez pas lu, comment allez-vous faire le suivi pour savoir si réellement le gouvernement a respecté ou pas? Ben, c'est ça la grande difficulté aussi, Blaise.
Il a respecté une partie, l'autre partie rien. Et paraît-il que c'est ça qui a causé les désordres.
Alors les soucis,
que nous demandons,
l'idéal pour nous,
que nous dem- l'idéal alors, pour nous. Que nous demandons,
oui Blaise, allez-y.
Ce que nous demandons, notre gouvernement soit responsable. Dès qu'il signe quelque chose, qu'il arrive à respecter ça à la lettre. Parce que ce qui fait défaut au Congo, le non-respect des textes. Le jour où les Congolais nous commenceront à respecter les textes, c'est le jour où le Congo partira en avant.
Voilà, merci beaucoup Blaise.
Nous allons toujours tourner à rond.
Voilà, merci beaucoup Blaise d'avoir interpellé plus d'un à pouvoir respecter les accords signés. Nous allons prendre Papa Lui avant de revenir à notre invité. Papa Lui qui est à Isiro. Bonjour Papa Lui.
Bonjour à tous les auditeurs. Je suis très bien ici à Isiro. C'est ce qui se passe à l'autre côté là. L'accord qui a été fait là nous a donné un ouf de soulagement. Parce qu'on s'attendait peut-être qu'il fallait toucher à une souris, mais ça fait un petit pas. Mais pour nous ici, nous voyons que les accords qu'on essaie de faire aboutissent souvent parce qu'on ne respecte pas les engagements. Et les opinions parfois qui sont émises de parmi les hommes sur les accords-là, certains ne tiennent pas ça jusqu'au bout, ils changent d'avis à chaque instant. Ce qui arrive, que les accords n'aboutissent pas de part et d'autre, même le gouvernement, même le rebelle. Qu'il en soit ainsi, mais nous pouvons dire que c'est un accord déjà partiel, parce que nous avons autant de rébellions qui est ici. Et déjà, il y a des gens qui déposent par-ci par-là. Il n'y a pas le reste. C'est quand on termine avec le M23, nous aurons beaucoup d'autres affaires. À Lubumbashi, nous avons au Sud-Kivu, au Nord-Kivu, il y en a encore des rébellions. Alors, il y a beaucoup à faire. Et je demanderais, moi, que la cour-là, le ne soit pas resté seulement au niveau de Kampala. Il faut qu'on retourne avec ça dans notre pays. Que cela soit d'abord sur les voies politiques. Parce qu'il y a des gens qui revendiquent les droits politiques, mais ils ne veulent jamais
voilà, merci beaucoup.
Sur la table avec les autres.
Merci beaucoup, Papa
Alors,
Louis.
Ce qui pose des problèmes.
Merci beaucoup, Papa Louis. 081-890-6315 ou encore le 081-890-4339 pour participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Oui, Dominique Ward, vous avez suivi les uns et les autres. Nous retenons une chose, hein, que les auditeurs craignent, surtout quand il s'agit de renforcement des positions, de positionnement au niveau de M23. Et cela justifie donc, selon eux, déjà l'échec, hein, l'échec qui pourrait sortir de ces négociations de Kampala.
Ben oui, moi, effectivement, je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste non plus. Et pas commencer à crier victoire. Il est évident qu'on a une première étape qui a été franchie dans cette dynamique qui a été lancée à Kampala début décembre de l'année passée. Bon, voilà, on avance un tout petit peu. Je pense que, évidemment, on va devoir maintenant jauger quelle est la véritable bonne volonté de la part des deux parties, hein, qui sont autour de la table à Kampala, que ce soit les autorités congolaises, que ce soit les représentants du M23 dont on sait, et ça je peux partager vraiment le sentiment de certains de vos auditeurs, dont on sait que sont-ils véritablement congolais. Et on sait très bien qu'il y a derrière le M23 un pays voisin qui est notamment le Rwanda et peut-être même l'Ouganda, et qui fait que, bon, voilà, ce soutien extérieur fait que, aujourd'hui, la clé n'est pas uniquement dans les personnes qui sont autour de la table à Kampala, mais bien aussi dans les pays voisins et les autorités des pays voisins, où on va voir si elles ont la volonté et la motivation de faire aboutir ces négociations. Maintenant, à côté de ça, moi je pense que même si je peux tout à fait partager l'avis de certains de vos auditeurs qui disent que c'est avant tout un problème congolais, interne au Congo, et qu'il doit être résolu par les Congolais eux-mêmes, et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'interventions ou d'implications, soit des pays voisins, soit de la communauté internationale. Moi, je serais un tout petit peu plus prudent par rapport à cet avis-là en disant que il me semble quand même que le blocage dans lequel se retrouvent les différentes parties congolaises, et on sait qu'il y a eu aussi une volonté il n'y a pas longtemps de construire une nouvelle rébellion au sud Kivu avec l'union des forces révolutionnaires du Congo. On sait qu'il y a quand même des forces négatives qui continuent à sévir dans le pays depuis maintenant de très très et de trop nombreuses années. Et donc, je pense qu'une intervention de la communauté internationale, telle qu'elle est un petit peu envisagée et telle qu'elle elle existe aujourd'hui, et qui semble se renforcer. On a entendu le secrétaire général des Nations Unies dire tout récemment que si les accords aboutissaient, il fallait absolument qu'il y ait une structure, une institution qui puisse vérifier que cette fois-ci, les accords qui auront été engrangés à Kampala seront vraiment suivis des faits et verront vraiment tous les engagements des uns et des autres respectés. On a vu que le secrétaire général des Nations Unies commence tout doucement, vous m'excuserez l'expression, à en avoir marre des sévices dont les populations congolaises sont victimes aujourd'hui, et dans le cadre de la MONUSCO, a appelé à la mise en place au Conseil de sécurité. Ce n'est pas encore accepté, ça va prendre du temps, c'est de nouveau une nouvelle dynamique, mais voilà, je pense que c'est quand même important de mettre en place une brigade d'intervention rapide, qui puisse rapidement contrôler et surtout mettre fin à des exactions qui seraient perpétrées par les forces négatives. Il y a eu l'arrestation quand même en Afrique du Sud et en Angola d'un certain nombre de comploteurs contre l'État congolais, où on voit maintenant que et les autorités de l'Angola et les autorités de l'Afrique du Sud comprennent qu'on ne peut plus comme ça laisser sur ces territoires-là perpétrer des forces négatives qui sont en train de s'armer, qui sont en train de s'entraîner en dehors des frontières du Congo pour venir après en RDC faire les exactions qu'on connaît. Il y a eu quand même le sommet de la SADC où on a vu que les pays de la SADC, lors du sommet où M. Kabila était là, ont accepté de donner 4000 hommes pour la fameuse force neutre d'intervention. Alors, cette force neutre, c'est vrai que ça devient un tout petit peu un fantôme, puisqu'on en parle maintenant depuis plusieurs mois, n'empêche qu'il y a eu là un engagement clair de la part des pays de la SADC. On voit qu'il y a aussi quand même au niveau de la CEAC une volonté de vouloir arrêter ces déstabilisations à l'est du Congo. On voit que la francophonie, après avoir fait son grand sommet au mois de novembre à Kinshasa, lors de la session qui s'est passée la semaine passée des parlementaires membres des pays de la francophonie, a dans son agenda et dans sa déclaration finale réexprimé très clairement sa volonté de vouloir voir la fin de l'instabilisation, des exactions, des violences,
des crimes perpétrés,
de la vraiment maltraitance des populations congolaises à l'est du pays. Donc, moi, je pense que je disais en début d'émission qu'on avait un petit peu d'agitation maintenant qu'il y avait eu un premier pas qui a été franchi au sommet de Kampala. Je pense que cette agitation, il faut surtout qu'elle soit coordonnée, il ne faut pas qu'elle ne parte dans tous les sens, mais je pense qu'elle participe malgré tout au fait que l'année 2013 ne pourra pas être comme l'année 2012, on ne pourra pas continuer, que ce soit au niveau des autorités congolaises, que ce soit au niveau des autorités des pays voisins, que ce soit au niveau de la communauté internationale, on ne pourra pas continuer à tolérer la difficulté, le stress, la maltraitance
au niveau des régions,
notamment des femmes, des populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'en 2013, ce doit être en tout cas une année où on arrête toutes ces violences, on arrête toutes ces exactions, on arrête tous ces pillages, on arrête tous ces déplacements de population. Il faut que les populations à l'est de la République démocratique du Congo retrouvent la paix.
Voilà, Dominique, on va
et puissent vivre de leur
voilà,
de leur agriculture et voilà, de leurs activités économiques, et que ce pays reprenne un tout petit peu de sérénité.
Voilà, nous avons les deux derniers auditeurs, on va leur accorder la parole, Abraham qui est à Kananga et Maurice à Kolwezi. Abraham, vous avez une minute, et Maurice également. Abraham, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour m'avoir accordé la parole aujourd'hui. Et voici d'abord mes regrets. Quand nous regardons d'abord ceux qui ont donné leur accord là-bas à Kampala, même le planning de leur accord, on ne sait pas quel accord va commencer quand et ça se terminera car jusqu'à présent, nous ne savons pas que cet accord va juste où, jusqu'où ils vont nous amener. Puisque un, M23, il n'a même pas la légitimité de notre pays. Même le parti d'un gouvernement, le majorité, c'est Kabila. Il n'a même pas la légitimité de notre pays.
Oui, Abraham, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si on peut, on peut quand même éviter certaines intempérances dans cette émission. Donc le problème, il y a un pas qui a été franchi entre le gouvernement congolais et les M23. Nous savons qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Maintenant qu'il y a, il y a un pas qui a été franchi, vous personnellement, vous pensez quelles seront les chances à accorder? Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, ça pourrait donner quand même des bons résultats et avoir une paix durable en RDC?
Non. On ne peut attendre quelque chose de cet accord-là, puisque nous savons que le gouvernement actuel, c'est un bâtiment qui a été scellé par le peuple congolais que c'est à démolir.
Bon, voilà. Je crois que Abraham, on s'entend pas bien. On s'entend pas bien parce que là, finalement, on est en train d'aller de côté de la plaque. Donc, nous ne sommes pas dans le sujet avec vous. Maurice, vous êtes à Colosie. Bonjour. Voilà, vous avez la parole, Maurice, et comme ça, vous serez les derniers auditeurs.
Ok, je compatis toi avec nos compatriotes de l'Est. Hein. Moi, ce que je peux dire est ceci. Notre gouvernement, il a bien fait pour rencontrer ces rebelles à Kampala. Pourquoi? Si vous vous souvenez, notre président de la République, avant les élections, il avait dit que lui, c'est un transporteur de jeux qui ne peut jamais se bagarrer. Le père de casser le jeu. Et ce qui s'est passé, pourquoi il a opté encore pour l'option diplomatique. Et la rencontre de Kampala, pour nous, c'est une bonne chose parce que nous avons d'abord découvert les ennemis du Congo et des Congolais qui se cachaient et qui ne voulaient pas se faire voir pour qu'on les reconnaisse. Parce que maintenant, vous savez, c'est lui qui signe, c'est lui qui négocie à la tête de...
Oui, Maurice, ne citons pas les noms des gens.
Non, je ne
voilà.
cite pas les noms.
Nous sommes entre deux parties. Oui, allez, signataire, bon. Allons-y.
Oui, je ne cite pas les noms. Maintenant, ce que nous devons nous attendre, même si le M23, aujourd'hui, il peut refuser, il peut, comme on dit, qu'il est en train de renforcer ses dispositions, ça ne fait rien. Moi, ce que je salue, vous voyez, à l'interne, de ce qui se passe à l'interne, ça ne nous dira pas le contraire, que quand M. Bouchard a rencontré les Jean-Claude Bouemba, ce ne sont pas des opposants. Vous voyez qu'il y a même les opposants qui ont vraiment l'amour de leur pays. C'est bien ce qui s'est passé à Kampala. On a franchi un pas. Et il faut que ça se passe encore à l'interne. On va franchir un autre pas. Mais tôt ou tard, le M23 payera. Parce que les sang des Congolais qui coulent chaque jour, les Congolais ne sont pas les canards. Ce sont des hommes, ce sont des sangs humains que Dieu ne va pas tolérer aucun jour que ce sang coule, voir encore nos sœurs et nos mamans qui sont violées.
Voilà, merci beaucoup Maurice, on n'a plus assez de temps, nous retenons que votre souhait, hein, les pas franchis au niveau des Kampala, que ce soit de même au niveau national, et surtout par rapport à ce dialogue national qu'on souhaite de tous les voeux, normalement toutes les parties soient impliquées, afin de pouvoir chercher vraiment une paix durable en RDC. Merci à Maurice. Dominique Waltz, on va terminer avec vous. Juste pour ramasser les dernières interventions. Voilà, Dominique.
Allez-y. Oui. Non, mais écoutez, moi je pense pour conclure un tout petit peu, il faut absolument que les négociations continuent. Donc, et moi je pense que le gouvernement congolais doit être assez ferme vis-à-vis du M23 sur le fait qu'on reste vraiment dans l'agenda de ce sommet, à savoir la question des forces négatives à l'Est, et que toutes les autres discussions, tous les autres problèmes qui existe, et il faut pas le nier, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, soit géré au départ de Kinshasa dans le cadre du dialogue de cohésion nationale. Deuxième chose, moi je pense que il y a aujourd'hui de la part de la communauté internationale une attention encore plus forte qui doit être portée sur les violations des droits de l'homme, les violations des populations à l'est du Congo, au nord du Katanga, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema, en Ituri, il y a quand même des situations qui sont vraiment insupportables. Et en 2013, je pense qu'il faut maintenant qu'on mette vraiment fin à ce calvaire dont aujourd'hui les populations dans ces régions-là sont victimes. Et puis trois, moi je pense que il va falloir absolument, dans le cadre notamment du dialogue de cohésion nationale, il faut absolument que les autorités congolaises avancent sur le processus électoral qui a été stoppé au lendemain des élections présidentielles et législatives. Une des solutions aussi, notamment pour toutes ces populations à l'est de la République démocratique du Congo, une des solutions aussi qui va peut-être leur redonner un peu d'espoir et surtout de la paix, ben c'est évidemment l'organisation des élections provinciales et locales. Elles doivent vraiment avoir lieu, et je pense que si le gouvernement congolais, qui coince encore actuellement, et on sait qu'actuellement la fameuse loi de réforme de la Commission électorale nationale indépendante est toujours sur le bureau du président de la République pour promulgation, dont on sait que le contenu de cette modification de la loi de 2010 n'est pas
voilà, Dominique, accepté par voilà, merci, l'État le fait défaut.
Je pense qu'il faut absolument le gouvernement congolais, le président de la République,
on va s'arrêter là, Dominique. Merci beaucoup, Dominique. On a pris assez de temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes professeur en sciences politiques au Centre d'études questions de l'Afrique centrale. Merci. Merci également à Mimi Kindou qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Titi Mputu et Pierre Lamegi l'ont réalisé. Et Jirlungen vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiokapi.net. Le 12 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'enfant soldat. En marge de cette journée, Parole aux auditeurs s'intéresse à la loi portant statut des FRDC et police nationale adoptée au Parlement et promulguée récemment par le chef de l'État, qui apporte quelques innovations, entre autres sur l'âge de la retraite arrêté à 45 ans, notamment pour les sous-officiers. Nous allons parler demain, donc réagissez et prenez déjà rendez-vous avec nous pour demain. Le journal Babel Pongo Massimango.
Bonjour. Deux factions armées de la milice Niatoura se sont battues ce matin à Kétéré dans Massissi au Nord Kivu. Aucun bilan disponible jusque-là. Le gouvernement de la province orientale est là, publié hier dans la soirée. Le gouvernement Jean Bamani compte 8 ministres, dont 30% des femmes. L'opposition politique est de la partie. Au Bandundu, arrestation d'un présumé voleur d'enfants la semaine dernière à Kikwit. Deux enfants ont pu être récupérés, dont un enlevé depuis 5 ans. Il y a eu affrontement ce matin entre deux factions armées de la milice Niatoura à Kétiré, localité du territoire de Massissi, environ 120 km au nord-ouest de Goma, au nord Kivu. Selon des sources locales, les éléments fidèles au colonel Noéry ont tenté de piller de nouveau la population ce matin après une incursion hier dans la soirée. Ils ont été aussitôt repoussés par les Niatoura fidèles au colonel Kasongo. Toujours selon les mêmes sources, la situation est redevenue calme. Pour l'instant, aucun bilan n'est encore disponible. Les détails de cette attaque dans ce reportage de Jérémy Katembo Asake et qui est rendu par Willy Akonda.
Tout a commencé hier dans la soirée. Selon les témoignages recueillis sur place, les éléments fidèles au colonel Noéry ont pénétré pendant quelques heures dans certaines habitations pour réclamer des vivres offerts par la CICR il y a 4 jours